13h-14h,
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous faire découvrir des hommes et des femmes qui innovent pour faire changer les choses et construire la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur la garde d'enfants. La crèche a évolué, la nounou aussi, elle s'est digitalisée et les parents ont également imaginé, vous allez le voir, leur propre réseau. Elle existe depuis 1950 et restée familiale, fabrique des produits qu'elle destine aux bébés. Mustela est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis investir dans des forêts, c'est l'idée d'écoterie, financer des arbres pour gagner des sous. C'est la solution aussi pour sauver la planète. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Oui, vous allez voir qu'en quelques années, la question de la garde d'enfants a beaucoup évolué chez nous en France. Et ce, notamment sous l'impulsion d'acteurs privés qui ont imaginé de nouvelles solutions. On va les recevoir ici sur Europe 1. Et pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela. Salut Elisabeth.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aussi, c'est Laurent Chouin aujourd'hui. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
Je la fais ou pas, DRH Monde,
alors,
du groupe Mazar, la
deux
semaine.
Deux enfants, mais plus en crèche.
Bon, cette question de la garde, c'est vrai qu'elle est centrale pour beaucoup d'entre nous, parce que quand on travaille avant l'école, il faut bien que quelqu'un prenne soin de nos enfants. Bonjour Jean-Emmanuel Rodocanacci.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Grandir, fondé en 2000, je crois.
Tout à fait.
Et les parents vous connaissent probablement, parce que derrière Grandir, il y a une enseigne, les petits chaperons rouges.
Effectivement, la grande famille des petits chaperons rouges, qui a commencé dès 2000 déjà, le temps passe.
Eh oui.
Mais on ne s'est pas ennuyé depuis presque une vingtaine d'années. En lançant en France un concept assez novateur à l'époque, c'était celui des crèches d'entreprise. Tout simplement, il y avait plus de 500 000 familles en liste d'attente. Il fallait faire quelque chose. Il fallait mettre en place des crèches de qualité. Et l'idée de demander à l'employeur finalement de donner un coup de main à ses salariés, c'était pas mal. C'était dans l'air du temps.
Alors comment ça vous est venu justement? Parce que vous rentriez des États-Unis et que là-bas ça existait?
Exactement. Je me suis inspiré d'un concept américain. Je suis rentré en France et j'ai convaincu, après 3 ans de travail, les pouvoirs publics, d'accepter que les gestionnaires privés puissent gérer des crèches en France aux côtés des gestionnaires associatifs. On avait besoin d'un maximum d'innovation, de se serrer les coudes, d'apporter un plus à ce secteur, de valoriser le travail des professionnels aussi, qui est extraordinaire au quotidien dans les crèches. Et donc voilà comment est née cette histoire, tout simplement.
Vous avez réussi à convaincre Ségolène Royal, hein, à l'époque qui était ministre de la Famille. Vous êtes allé la voir, vous lui avez dit quoi pour la convaincre justement de vous faire rentrer finalement sur ce terrain de jeu-là?
Qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit un des seuls pays dans le monde à ne pas impliquer le secteur privé dans la petite enfance.
Justement, au début, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir qui quand vous arrivez, quand vous décidez de créer la première crèche? Comment ça se passe? Qui est-ce qui vous ouvre les portes?
On ouvre la première crèche à Rungis, sur un parc d'activités tertiaire, avec une quinzaine d'entreprises autour de table, partenaires, des TPE, des PME, des grands groupes d'ailleurs, je pense à Corsair à l'époque, des administrations, les douanes d'Orly, le conseil général qui réserve des places pour leurs agents, des villes qui réservent les places pour leurs administrés. Parce que là, tout d'un coup, il y avait une structure qui s'ouvrait, qui était innovante, qui était flambant neuve, avec un jardin immense, voilà, c'était le premier proof of concept d'une crèche inter-entreprise en France.
Oui, et c'est comme ça d'ailleurs qu'après, y a carrément des villes qui viennent vous voir pour vous demander de prendre des crèches en délégation de service public.
Effectivement, vous savez, la petite enfance, c'est un métier à part entière, un métier extrêmement technique, qui nécessite beaucoup de professionnalisme. Les normes, comme vous pouvez l'imaginer, sont heureusement au top.
Oui, sont les mêmes d'ailleurs pour le
et
public et pour le privé.
Pour l'ensemble du secteur, bien évidemment. Les formations, les diplômes, etc. Donc, c'est devenu un vrai métier de professionnel à gérer et à animer au quotidien. Et donc, forcément, les villes, effectivement, délèguent ce service public, parmi tant d'autres d'ailleurs, et les petits chaperons sont aujourd'hui d'ailleurs le premier gestionnaire en France pour le compte de collectivités.
Alors Elisabeth, justement, ça marche comment les crèches privées en France, plutôt bien?
Elles cartonnent, c'est simple, hein. Il faut dire que la demande est immense, hein. La France compte un peu plus de 2 millions d'enfants, 2,3 millions d'enfants de moins de 3 ans, alors que la capacité d'accueil des structures collectives et des assistantes maternelles était, on peut dire, inférieur à 1,4 million de places. Donc, il y a de la place, effectivement. Et pour preuve, le secteur des crèches privées enregistrent des progressions de l'ordre de plus de 10% par an en moyenne.
Et les capacités d'accueil ont plus que triplé ?
Oui, depuis 2010, hein, explosion totale. Il y a une étude qui a été menée par Xerfi, une étude approfondie sur ces crèches. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, moins de 25 000 places en crèche, c'était en 2010. En 2017, on compte plus de 75 000 places, et ces places d'accueil de crèches en crèche privée, elles représentent plus de 15% des places de crèches disponibles.
Oui, avec des ouvertures prévues aussi pour 2019, hein, puisqu'il y a un plan crèche qui est en cours de construction, et il y a une volonté du gouvernement d'en ouvrir encore davantage.
Bien évidemment, les petits chaperons rouges typiquement ouvrent une cinquantaine de nouvelles structures par an, donc ça c'est important, c'est massif même, parce que ça répond à un besoin, à une demande à la fois.
Cinquantaine de structures en France.
Parce
que vous êtes aujourd'hui aussi à l'international.
Exactement, exactement. Mais attention, on est dans un secteur où il ne faut pas confondre quantité et qualité. C'est pour ça qu'on a mis en place un label qualité avec le groupe SGS qui s'appelle Crèche Expert. C'est le seul et le premier en France qui permet d'auditer chaque année l'ensemble des structures. C'est essentiel.
Hyper important.
Ce développement doit se faire extrêmement qualitativement.
Que dit notre coach ?
Un coup de chapeau et une question. Le coup de chapeau, il est sur trois points. C'est d'abord, c'est une formidable réussite de Société Plurielle. C'est-à-dire, c'est des partenariats publics-privés qui ont marché. Donc, ça, c'est un exemple pour tout le reste. Deuxièmement, c'est vraiment la qualité de vie au travail. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, non seulement dans l'air du temps, mais en plus, c'est très important pour nous. Troisième point, moi, je le vois bien, c'est le moyen aussi de pas sous-entendre que c'est la mère qui s'occupe des enfants, mais c'est une aide aux parents. En général. Et donc, je trouve que ça promeut aussi des idées de diversité qui sont importantes, bien au-delà du service que vous rendez. Ma question, c'est, fait écho à ce que vient de dire Elisabeth. Il y a un boom incroyable. Comment on fait pour recruter des gens qui vont s'occuper d'enfants ? Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas neutre comme action. C'est-à-dire, où est-ce que vous les trouvez ? Vous recrutez plutôt des gens dont c'est le métier par vocation, ou au contraire, vous faites un effort de formation et c'est des gens à qui vous allez donner finalement un métier, au-delà de ce qu'ils ont choisi de faire au départ ?
Jean-Emmanuel.
Alors, c'est une très bonne question. On a plus de 1000 clients entreprises aujourd'hui qui nous confient chaque jour les enfants de leurs salariés en France. Donc, l'emploi, c'est clé. Et puis, trouver des professionnels de la petite enfance qui soient motivés, qui soient compétents, etc. La France est un des pays probablement les plus stricts au monde en termes de diplômes permettant d'exercer dans les crèches. Donc, il y a 4 ou 5 diplômes. Et en dehors de ce champ, vous ne pouvez pas travailler en crèche. Donc, c'est à la fois très positif et en même temps, peut-être parfois, par certains égards, un peu trop protecteur. Par exemple, une directrice d'école maternelle n'a pas le droit de travailler en crèche en France. On peut se poser la question de...
Alors qu'elle s'occupe par ailleurs d'enfants.
Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi élargir un peu pour apporter un peu de souplesse ? Néanmoins, nous avons monté une académie, l'Académie Grandir, qui permet aujourd'hui de faire des formations continues sur les équipes. Donc, on a 4000 salariés en France et ces 4000 salariés, chaque année, passent par l'Académie Grandir, à la fois en formation présentielle et en e-learning.
C'est 4000 salariés pour à peu près 20 000 enfants, c'est ça ? C'est 1 pour 5 ou c'est...
C'est 1 pour 3 à peu près.
1 pour 3.
Exactement.
Oui,
c'est à peu près 12 000 places en France. Mais donc, c'est essentiel parce que ces salariés, moyenne d'âge, 25 à 30 ans à peu près en crèche. Donc, génération Y, les millénials, le e-learning, ça c'est fondamental pour leur permettre d'apprendre sur le lieu de travail de manière continue.
On reste ensemble, on continue à parler de la garde d'enfants aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08. Europe 1.
Qui n'a pas connu de galère pour trouver une babysitter ? C'est pour résoudre eux-mêmes le problème que les fondateurs de Youpies ont créé leur propre service. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Le Meilleur de la France Bouge avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag. L'objectif aujourd'hui, en vue de la rentrée peut-être, trouver des solutions pour faire garder son enfant et c'est pas toujours évident.
Et vous êtes peut-être invité, tiens, ce soir à la dernière minute, votre mère a la grippe, elle ne peut pas garder votre fils et vous devez rejoindre un dîner de travail. Qui ne s'est pas retrouvé en panne de nounou au dernier moment ? Bonjour Benjamin Suchard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, vous êtes le PDG de Youpies et aussi le cofondateur de ce que je viens de décrire, parce que ça doit parler à tout le monde, parce que c'est en voyant, je crois, vos sœurs galérer que vous avez eu l'idée de créer, vous, Youpies, donc votre propre entreprise.
Exactement, en fait, j'étais étudiant à l'étranger, je suis revenu à Paris où j'habitais et j'ai voulu avoir un dîner tout simplement avec mes sœurs. J'en ai deux qui étaient devenues maman.
Oui.
Et là, je me suis rendu compte que c'était la galère pour pouvoir organiser ce dîner et qu'il y avait toujours un problème de babysitter. Et je me suis dit que c'était quand même incroyable parce qu'Internet permettait de faire beaucoup de choses, mais pas de trouver quelqu'un de confiance, d'où l'idée de Youpies.
Alors racontez-moi, vous avez fait comment pour sélectionner et créer l'appli ?
Alors aujourd'hui, Youpies, c'est la première plateforme européenne pour pouvoir trouver et gérer sa garde d'enfant. Alors ça peut être sa nounou, sa babysitter, mais aussi également son assistante maternelle.
Ça veut dire que là, si je cherche quelqu'un pour ce soir, je vais sur Youpeace, je vais trouver.
Ah oui, vous pouvez télécharger notre application et en moins de 10 minutes, vous allez avoir 3 à 5 profils qui auront été validés avec évidemment leur pièce d'identité vérifiée, avec les diplômes liés à l'enfance. Je pense par exemple au BAFA ou au diplôme de premier secours qui auront été validés et surtout avec des avis d'autres familles, des avis qui sont extrêmement importants. Lorsqu'il s'agit de vos enfants, vous allez non seulement pouvoir voir les avis, mais aller contacter les parents et les familles qui ont émis cet avis.
Vous disiez diplôme pour les personnes qui peuvent éventuellement être amenées à garder nos enfants. Vous avez justement mis un certain nombre de critères qu'il faut remplir avant de pouvoir être sur cette appli.
Oui, en effet. Et les critères, en fait, il y en a plus de 50. C'est les parents eux-mêmes qui vont les sélectionner. Vous pouvez par exemple, avoir besoin de quelqu'un qui a son permis de conduire. Vous pouvez demander une langue spécifique pour que votre enfant puisse avoir une connaissance d'une langue étrangère. Tout cela, vous allez pouvoir l'indiquer sur l'application ou sur le site internet. Et grâce la mise en relation qui est effectuée, vous allez trouver la personne idéale, l'assistante maternelle idéale, la nounou idéale.
Vous avez commencé en 2012. Depuis, vous avez 3 millions de membres en Europe, dont 300 000 parents qui sont inscrits ici en France.
Qui sont inscrits en France. En effet, ça a grandi assez rapidement. On a commencé en France, petit à petit. On s'est rendu compte que c'était un problème que tous les parents du monde, finalement, avaient. Et donc, on a grandi petit à petit. Aujourd'hui, on est dans 14 pays en Europe. On a une ambition, c'est de rendre la garde d'enfants facile et accessible. Parce qu'il faut savoir que la garde d'enfants, les gens pensent que ça coûte cher, la garde à domicile ou l'assistante maternelle, mais de nombreuses aides existent et on est là pour les aider aussi.
Alors justement, puisque vous parlez tarifs, Elisabeth, ça coûte combien de faire garder un enfant ?
Ça dépend déjà des endroits. Le site Youpeace a fait chaque année un baromètre du coût de la garde d'enfants et il estime à 9,07 € net par heure en moyenne le tarif de la garde d'enfants. Mais ça dépend si c'est une nounou, si c'est une crèche ou si c'est une garde à domicile. Là aussi, les prix varient. Les assistantes maternelles, c'est le mode de garde qui est le plus apprécié en France. Environ 86% des parents choisissent ce mode de garde et les tarifs d'ailleurs. D'ailleurs, des assistantes maternelles ont énormément progressé, une augmentation de plus de 2,5% en un an. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 5e région la plus chère pour les nounous, avec un salaire horaire par enfant de 3,29 € derrière les régions Corse, PACA, Île-de-France et Occitanie.
Ces chiffres-là, il y a une raison pour qu'ils évoluent, pour qu'ils changent. Comment est-ce que vous faites évoluer justement les tarifs, par exemple, vous, chez Youpeace ?
Alors, ce qui est très important de noter, c'est que ces tarifs-là, ce sont des tarifs nets, mais derrière, vous avez énormément d'aides. Vous avez des aides, notamment de la CAF, qui vous permet de réduire considérablement le coût de la garde d'enfants. Donc, au final, le coût horaire, il peut varier entre 50 centimes et 1 euro. Mais c'est une galère pour pouvoir gérer, déclarer. Et donc, tout cela, nous, ce que nous faisons chez Youpeace, c'est qu'on s'occupe de toute la partie administrative pour que vous n'ayez pas à déclarer votre nounou à la fin
du
mois.
Vous faites les papiers à notre place ?
On fait les papiers à votre place. Vous pouvez être tranquille. Vous êtes sûr que le droit du travail est respecté, que que vos aides sont proposées.
Et donc, vous êtes en partenariat avec l'URSSAF aujourd'hui ?
Alors, on est en train, exactement. C'est la première fois que l'URSSAF, en fait, ouvre ses données et son système informatique à des startups et on travaille avec l'URSSAF pour pouvoir justement créer des ponts informatiques entre les plateformes comme Youpeace et l'URSSAF.
Elisabeth.
Alors vous rémunérez comment vous prenez chez les parents ou sur le salaire de la nounou ?
Alors pour les nounous assistantes maternelles, c'est totalement gratuit à la fois pour les familles
ça n'empiète pas sur leur
pour
salaire.
Les assistantes maternelles et ça n'empiète pas pour les salaires. Pour les autres modes de garde comme la garde à domicile, les parents vont payer un abonnement qui leur permet d'avoir accès non seulement à tous les candidats et à tous les profils, mais également à s'occuper justement de toute la garde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des parents qui, même lorsqu'ils ont trouvé leur nounou ou leur babysitter en dehors de l'application de Youpeace, utilisent l'application pour pouvoir tout gérer pour eux.
Oui, c'est comme ça qu'effectivement, vous pouvez avoir 60 salariés aujourd'hui. Une question de notre coach,
oui,
Laurent.
Oui, absolument. Alors, déjà, on est tous partenaires de l'URSSAF d'une manière ou d'une autre. Hein,
mais... oui, c'est sûr.
Non, ma question, c'est plutôt, c'est quoi les profils des gens ? Par exemple, je ne suis plus dans la cible, donc donc j'ai pas utilisé le service, mais c'est des étudiants, c'est des professionnels, ils restent longtemps. Vous voyez, c'est un peu les questions de chauffeur Uber, quoi, finalement. C'est-à-dire, qui veut faire ça et combien de temps?
Alors, c'est extrêmement large, parce que des assistantes maternelles, ce sont des personnes qui en font leur métier. Elles ont un agrément qui est délivré par la PMI. Donc là, vous avez quelqu'un plus âgé et qui fait ça comme un métier. Mmh. Vous avez aussi, par exemple, beaucoup d'étudiants qui vont faire du babysitting, par exemple des sorties d'école, tout ce qui est périscolaire, et qui le fait pour financer ses études. C'est des gens qui peuvent, par exemple, avoir leur BAFA, avoir fait de l'animation. Donc en fait, c'est assez large.
Finalement.
C'est à la carte et ça va être en fonction de la famille. On a, par exemple, des mamie-sitters, des personnes qui sont retraitées et qui souhaitent mettre à profit leur temps pour garder des enfants parce que leurs petits-enfants ne sont pas forcément à côté.
J'ai vu que vous aviez un service d'urgence aussi.
Exactement. On a un service d'urgence pour en moins de 10 minutes trouver une solution. Et puis on a un service aussi, peut-être que ça intéressera Laurent, pour les entreprises.
Ah.
C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle Youpi's at Work, qui est une plateforme pour que les salariés puissent trouver une solution qui sera ici recommandée par un de leurs collègues et donc en fait améliorer la qualité de vie au travail et l'équilibre de temps l'équilibre vie privée vie professionnelle, et c'est fondamental notamment pour toutes les thématiques équilibre homme-femme dans les entreprises.
On reste ensemble, on continue à parler garde d'enfants aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h21. Europe 1.
Vous allez voir que les parents ont des idées et quand ils se regroupent pour faire marcher l'entraide, ça donne un jeu d'enfant, un site qui dépanne de plus en plus de familles. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Le Meilleur de la France bouge sur Europe 1. On parle mode de garde cet après-midi. On cherche des solutions pour faire garder ses enfants ou son enfant, parce qu'on n'a pas toujours de la famille à portée de main ou des amis. Raphaël Duchemin.
C'est vrai que quand on a des amis à qui confier son enfant juste à côté de chez soi, c'est pratique, mais c'est plus compliqué quand on ne connaît personne ou qu'on n'ose pas. Bonjour Johanna Del Campo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci sur Europe 1. C'est en voyant vos amis, justement, coincés à la maison, faute de nounou, que vous avez imaginé un jeu d'enfants, c'est un réseau d'entraide.
Exactement, c'est un réseau social privé, sécurisé, c'est important. Oui, c'est en regardant autour de moi, en constatant que les amis ont souvent du mal à faire garder leurs enfants, que ce soit pour une sortie, que ce soit au pied levé pour une réunion qui dure, ou une après-midi, pour diverses raisons, et qui n'osent pas forcément demander à certaines personnes en disant « Ah ben tiens, j'aurais pu demander au papa de Léo, mais on n'a pas l'habitude de se demander ce genre de choses. » Donc l'idée a fait son bout de chemin. Et puis un jour, je me suis dit « Bon, il faut y aller. » Alors moi, je n'ai pas d'enfant, donc ça surprend toujours tout le monde, mais c'est vraiment en regardant autour de moi. Et donc, j'ai eu l'idée de la...
Il y avait un besoin, en tout cas.
Il y avait un réel besoin, voilà, un réel besoin d'entraide entre parents. Et je ne comprenais pas que ça ne se mettait pas en place naturellement, finalement, parce que pour moi, ça paraissait vraiment évident. Et avec un jeu d'enfant, finalement, on enlève la culpabilité de celui qui demande, la culpabilité de celui qui va dire non, parce que des fois on ne peut pas ou on n'a pas envie, tout simplement. Et là, avec l'application, la personne qui demande sait que les personnes en face sont là pour jouer le jeu aussi. Et la personne qui va refuser se dit « la prochaine fois, je dirai oui, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais cette fois-ci ». Donc avec un jeu d'enfant, il n'y a plus de question de je ne vais pas oser, je vais embêter la personne. Voilà, il n'y a plus ce genre de problème.
Tout démarre en 2017, dans le Gard. C'est effectivement pas du tout votre travail à l'époque. Comment est-ce que vous avez fait justement pour monter le système ?
Il y a eu beaucoup de recherches au départ pour savoir, j'avais envie de savoir comment fonctionnait une application, parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur-là. Ensuite, il a fallu trouver un développeur qui fasse application. Je voulais travailler avec des personnes du sud de la France, forcément. Donc, il a fallu trouver un développeur qui fasse un site internet et une application mobile. J'en ai rencontré plusieurs. Après, il y a eu la partie financement qu'il a fallu mettre en place et tout ce qui est intervenu derrière, donc les graphismes, l'ergonomie de l'application, que l'on travaille encore parce qu'on a des retours et on nous suggère de faire différemment.
Oui, ça évolue
au fur et à mesure.
Vous avez commencé au niveau du département, dans le Gard, et puis très vite au niveau national.
En novembre 2017, on a lancé dans le Gard avec une version test, on va dire, et en mars 2018, on a lancé au niveau national.
Qu'est-ce que vous disent les utilisateurs ? Qu'est-ce qu'ils demandent en priorité, par exemple ?
Alors, les utilisateurs sont contents. J'ai des retours quand je fais des salons, que je la présente. On me dit super, il fallait y penser. C'est rien et à la fois c'est tout. Ils me demandent de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment important pour moi.
Alors comment vous faites justement pour assurer cette sécurité ?
C'est vraiment des parents qui se connaissent. C'est vraiment des parents qui se connaissent. Il n'y a pas de suggestion. Pas comme sur d'autres réseaux sociaux où il y a la mention « vous connaissez peut-être telle et telle personne parce que vous lui avez juste téléphoné une fois et que vous avez son numéro de portable ». Là, c'est vraiment le parent, quand il s'inscrit, il crée son réseau. Donc, il peut aller chercher sur l'application des parents qu'il connaît par le nom de leur enfant, par les activités scolaires, par leur nom de famille. Et également, inviter via leur téléphone portable d'autres parents à s'inscrire sur l'application.
Elisabeth, on parlait d'autres réseaux, justement, je crois que vous en avez trouvé quelques-uns, d'entraide justement de parents.
Oui, tout à fait, j'ai trouvé Troc-ta-garde, c'est un réseau social entre parents, il existe depuis 6 ans, il permet d'échanger des heures de garde d'enfants chaque jour, ou ponctuellement, le temps d'une soirée. Vous avez aussi parents proches de chez vous, là aussi les parents ont accès à un réseau d'autres parents, pas d'argent échangé, mais là c'est un système de points qui a été mis en place. Quand un parent garde des enfants, il accumule des points qui vont lui permettre ensuite de faire garder ses propres enfants en utilisant les points gardés. Et tous ces réseaux permettent d'économiser en moyenne entre 1200 et 1500 euros tout de même.
Ah oui, ça fait une sacrée économie. Que dit notre coach, Laurent ?
D'abord, c'est un très joli nom.
Merci beaucoup.
C'est simple et on le retient. Non, c'est formidable. Souvent, les plateformes n'ont pas des noms marrants, mais là, c'est chouette.
Merci. C'est très important pour moi ce que vous êtes.
Et deux, j'aime beaucoup l'idée. Alors, et du coup, je vais poser une question un peu de rabat-joie quand même, Johanna, mais je pense qu'elle est importante pour aller plus loin et se lancer. Mais à la fin, qui a la responsabilité si ça se passe mal, par exemple ? C'est vous ? Vous assumez une responsabilité ?
Non,
ou c'est
moi,
les
c'est
gens
vraiment
eux
les personnes entre eux qui...
Donc, vous
voilà,
faites de la mise en relation, mais après, c'est leur problème.
Moi, je fais uniquement de la mise en relation. Ouais. C'est vraiment eux. Croyez-moi, je me suis réveillée quelques fois avec des sueurs froides en me disant... Voilà, donc c'est vraiment... Moi, je me décharge totalement. C'est vraiment un outil que je mets à la disposition, à la disposition des parents.
Aujourd'hui, vous envisagez une suite, justement, vous avez bien développé déjà, vous avez combien d'utilisateurs ?
J'ai 2000 utilisateurs sur la France. Je souhaite une suite, bien sûr, parce que là, actuellement, j'ai eu 2000 utilisateurs sans publicité.
À Nîmes ou
dans la France
internationale depuis 2018.
J'envisage de développer encore plus en France et toucher pays francophones, forcément, européens, et voire plus.
Vous avez déjà pris des contacts
tout
là-bas ?
Tout à fait, avec la Belgique,
notamment. En Suisse.
Voilà, exactement. Pour revenir sur les autres plateformes, sur un jeu d'enfant, il n'y a pas de système de troc ou de points. C'est vraiment la bienveillance et de la solidarité. Ce n'est pas parce que j'ai gardé ton enfant pendant une heure que je dois forcément te rendre pendant une heure, parce que malheureusement, la vie des fois fait que j'aurai pas le temps, on ne peut pas rendre. Voilà, là, l'application un jeu d'enfant, c'était vraiment de la bienveillance et de la solidarité avec la sécurité.
On reste ensemble, on continue à parler de la garde d'enfants aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi bien sûr, Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge, c'est votre émission, on vous attend.
Europe 1. On retrouve Raphaël Duchemin pour la suite de La France bouge. Quelle solution pour faire garder son enfant ? C'est le sujet du jour.
Nous sommes avec Laurent Chauhin, qui est notre coach aujourd'hui. Elisabeth Assayag est à mes côtés. Et nos invités, Jean-Emmanuel Rodocanacci, PDG du groupe Grandir. Benjamin Suchard, cofondateur de Youpies, une plateforme de garde d'enfants. Et un jeu d'enfants, Johanna Del Campo, la fondatrice réseau social d'entraide entre parents. Alors on a une première remarque d'Anne qui nous dit sur Twitter, franchement, faire de la pub pour un site comme cela, au lieu de donner la parole aux assistantes maternelles qui aujourd'hui sont en train de se battre pour leurs droits, c'est déplorable. Non, c'est pas déplorable. Et puis, vous en embauchez, vous en employez des assistantes maternelles qui, justement, sont concernées, Benjamin.
Aujourd'hui, c'est compliqué pour des parents de trouver des assistantes maternelles. Et inversement, vous avez les institutions publiques, les mairies, mais c'est quelques lignes. Vous n'avez pas les disponibilités des
personnes.
Vous
êtes là pour les faire travailler, justement.
Justement, pour les faire travailler, pour qu'elles puissent plus facilement trouver des solutions. Et donc, on est là pour les accompagner.
Justement, moi je voudrais qu'on s'interroge parce qu'on a une question intéressante aussi sur le Twitter toujours, de Marc, c'est
ça ? On a une question de Marc, fidèle auditeur, qui nous dit, parmi toutes vos structures d'accueil de petite enfance, comment est gérée la problématique de la protection des enfants justement avec toutes ces histoires dramatiques de pédophilie ?
Alors Jean-Emmanuel, peut-être est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec vos équipes ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient ? Des questions qui sont posées par les parents ?
Alors, bien évidemment, lorsqu'on est impliqué dans le secteur de la petite enfance, la protection du jeune enfant, c'est quelque chose qui est clé, qui est au centre des préoccupations de nos professionnels au quotidien. On a la chance en France d'avoir un système qui est celui des PMI, de la protection maternelle infantile, qui est extrêmement sophistiqué, qui est probablement un des meilleurs systèmes au monde sur la protection de l'enfance. Et donc, bien évidemment, nos directrices de crèche et les équipes de crèche sont en contact régulièrement avec les médecins de PMI. Et s'il y a le moindre doute sur quoi que ce soit, eh bien, vous faites ce qu'on appelle une déclaration. Et la PMI ensuite eh bien, intervient et ça permet effectivement parfois de résoudre des situations compliquées.
Johanna, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles la nuit parfois vous aviez du mal à dormir? C'est une question que vous vous êtes posée?
Oui, tout à fait, parce qu'évidemment on pense à la sécurité de l'enfant en premier et moi je suis partie du principe donc de la sécurité puisque c'est des parents qui se connaissent. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui peut se passer. Mais quand on laisse son enfant, on a pris la décision de le laisser à un parent que l'on connaît, à un parent de confiance. Donc voilà, la sécurité est là, entre les mains du parent.
Je voudrais qu'on revienne, Jean-Emmanuel, une minute sur vos micro-crèches, parce que vous avez lancé aussi ce concept. C'est quoi la micro-crèche ?
Alors, la micro-crèche, c'est un concept très simple. C'est une structure de 10 places de proximité. Donc, par définition, 10 places, c'est 150 mètres carrés à peu près. Donc, ce sont des structures que vous pouvez ouvrir en pied d'immeuble, dans des zones urbaines notamment, très proches du domicile des parents. Donc c'est une solution de proximité. Les enfants sont en âge mélangé, c'est-à-dire ce qu'on appelle en petite famille. Ça donne un côté extrêmement cocooning, extrêmement qualitatif. Et nous gérons et nous animons aujourd'hui plus de 150 micro-crèches en France. Et c'est un mode de garde et d'éveil du jeune enfant qui est extrêmement prisé par les familles.
Le coach, Laurent.
Vous recrutez des hommes aussi dans vos métiers. Est-ce que vous essayez de pousser peut-être les hommes à participer plus à ce genre de métier?
Alors, Benjamin, je crois que vous aviez envie de répondre.
Alors, c'est très drôle parce qu'on a fait des statistiques sur notre plateforme. Il y a moins de 5% d'hommes. Mais c'est incroyable parce qu'ils sont extrêmement demandés. Et c'est très facile pour eux de trouver eh bien, une famille. Donc, c'est un peu le paradoxe. Oui, c'est vrai, il y a peu d'hommes. Mais ces hommes sont très demandés.
Vous vouliez répondre aussi, Jean-Emmanuel.
Je rajouterais deux choses là-dessus. Un, vous trouvez des hommes, et tant mieux, parce qu'on en a besoin en crèche, et ça permet d'avoir un certain équilibre aussi dans les équipes, notamment sur tout ce qui est éducateur de jeunes enfants. Voilà, ça c'est vraiment le diplôme dans lequel on peut retrouver des hommes. Par contre, et je vais peut-être lancer un appel aux régions qui sont responsables des écoles de formation au diplôme de la petite enfance en France, par rapport aux engagements et aux objectifs d'ouverture de nouvelles places en crèche en France sur les 5 prochaines années, il va manquer 10 000 professionnels de la petite enfance. Il faut que les régions ouvrent plus d'écoles de puériculture, ouvrent plus de classes pour qu'on ait plus de jeunes qui sortent diplômés. Il y a une vraie urgence là-dessus.
Mais comment se fait-il quand on s'aperçoit qu'effectivement des gens comme Anne nous envoient des messages pour nous dire « mais nous, on ne trouve pas de travail, on a un problème, on est en train de se battre pour nos droits ». C'est quand même assez étonnant.
Alors, Anne, effectivement, parle du métier d'assistante maternelle, c'est-à-dire la garde à domicile. Et les régions, elles sont responsables des diplômes petite enfance pour la garde à l'extérieur du domicile, la garde collective, donc les crèches. Donc, c'est deux choses différentes, mais néanmoins extrêmement complémentaires.
Oui, mais il y a un potentiel.
Il y a un potentiel immense.
Elisabeth ?
Non, bah, c'est tout. Je pensais à la garde, à l'assistante maternelle, qui est quand même le mode de garde le plus apprécié des parents. Et c'est bien dommage que vous ayez du mal à en trouver.
Ouais, je voudrais juste en fait qu'on refasse un tout petit point parce qu'on a parlé du secteur privé. Il faut aussi préciser peut-être les choses. Les crèches publiques qui sont financées par l'État, on en est où là aussi, ça marche, ça décolle.
Hein. Ça a décollé. 16 100 projets ont été subventionnés. 9 000 places ont été créées en 2017. Et là aussi, hein, c'est une augmentation. Le chiffre est important. C'est pour ça que je le mentionne. Hein, 34%. Du nombre de créations par rapport à 2016. Ça a coûté un peu plus de 3 milliards d'euros, mais voilà, là aussi, on avance gentiment.
Benjamin ?
Oui, il faut le rappeler, les assistantes maternelles, ça reste le mode de garde préféré des Français, même devant les crèches, et c'est un métier compliqué, difficile, précaire. Vous gagnez de temps en temps moins que le SMIC si vous avez un ou deux enfants. Il y a une réforme en cours, notamment une réforme du chômage qui pourrait donner moins de droits lorsque vous n'avez pas d'un enfant qui part. Et donc, il faut aussi redonner de l'attractivité à ce secteur.
Oui, c'est pour ça que c'est important
d'en parler.
Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui parler mode de garde sur Europe 1.
Il est 13h39. Europe 1.
Elle prend soin des peaux de bébé depuis 1950. Mustela sera dans 2 minutes l'entreprise qui va bien. Merci. Europe 1. La France bouge, la suite sur Europe 1.
Elle prend soin de nous depuis 1950 et elle se porte bien. Qui ne la connaît pas? C'est l'entreprise dont vous allez nous parler maintenant, Raphaël Duchemin.
Cette entreprise, effectivement, je pense que vous l'avez toute utilisée pour votre enfant, effectivement, notamment, mais pas que. C'est Mustela. Bonjour Jean-Paul Berthomé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG des Laboratoires Expansion. C'est depuis le début, ce groupe, le vôtre, eh bien, il est familial. Hein, c'est important de le préciser. C'est votre père, je crois, qui a d'abord été aux commandes. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie, racontez-moi, de se lancer sur cette activité? On est après-guerre. Comment ça lui vient?
En 1950. En fait, mon père est parti d'un constat, c'est qu'à l'époque, pour nettoyer un enfant, il fallait souvent, c'était pas très simple, il fallait
Savon,
de l'huile, d'amande douce souvent. Et l'idée a été de créer une émulsion qui à la fois nettoyait et protégeait le bébé. Donc ça a été la première révolution de la toilette pour bébé. Il a créé donc ce groupe donc français, indépendant, dit responsable également, avec un associé pharmacien. Et après, d'autres innovations se sont succédées.
Mais le tout premier produit, c'est finalement le lait qu'on connaît
tous.
C'est
le lait de toilette.
Le lait qui hydrate et qui lave en même temps.
Exactement. Enfin, qui est une émulsion, qui est un produit qui permet effectivement d'assurer une toilette parfaite.
Alors, Mustela, c'est d'abord une odeur pour nous toutes, pour nous tous. Quand on y pense, ça, c'est votre signature.
Ah, incontestablement, je pense que c'est complètement ancré.
Qu'est-ce qu'il y a dans le lait, Mustela, pour qu'il sente aussi bon ?
C'est complètement ancré dans la marque. Et je pense que c'est lié au fait que Mustela, finalement, c'est un moment de... C'est utilisé dans des moments d'échange, des moments de forte communication avec son enfant. Et donc, on associe la marque à ce moment-là. Et donc, c'est excessivement fort et l'odeur devient effectivement l'association à ces moments. Pour ça qu'elle, c'est une marque à la fois intergénérationnelle et universelle.
Vous vendez aujourd'hui dans le monde, j'ai regardé, un produit par seconde.
Oui, exactement, exactement. Donc, c'est lié à une implantation internationale dans un peu plus de 100 pays, sous différentes formes, avec des distributeurs, avec des filiales. Mais c'est effectivement un point très important. Mais c'est aussi l'élément de garder de l'avance, parce que les attentes des consommatrices, des consommateurs, des parents sont souvent assez proches. Qu'attendent aujourd'hui des parents? C'est des produits sûrs, bien sûr, des produits naturels et des produits responsables.
Et vous avez gardé, justement, vous parliez d'internationalisation, de présence dans une centaine de pays, mais vous avez gardé, et ça c'est important de le signaler aussi, un ancrage local, alors régional.
J'y tiens énormément.
Vous êtes dans l'Eure-et-Loir, c'est ça?
Exactement, nous sommes à Épernon. C'est à la fois un centre R&D qui est là, un centre de production, voilà, de recherche et développement, où on conçoit... On crée nos produits, 95% des produits Mustela sont produits à cet endroit. Donc c'est un point qui est très important. Et ça,
300 personnes, c'est ça qui sont sur ce
site? Il y a 300 personnes, exactement. 300 personnes sur 1000 collaborateurs. J'en profite pour les saluer actuellement, s'ils m'écoutent, peut-être pas tous, mais une grande partie, dans tous les pays, au Mexique, à Shanghai.
Oui. Bah, j'espère.
Voilà.
Que dit notre coach?
Ce qui me frappe, moi, c'est moins l'ancrage. Parce que ça, il y a une sorte de tradition familiale, entreprise. C'est le fait que vous soyez resté sur votre métier. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, avec une marque qui est devenue forte, l'envie d'aller étendre un peu les marchés, de faire autre chose et finalement de se décentrer de cette image d'origine et de l'enfant. C'est un choix, c'est une contrainte. Qu'est-ce qui vous a fait rester aussi proche
de
votre métier d'origine?
On a peu de temps, mais Expansion, ça n'est pas que Mustela aussi. Hein. Mm-hmm. Ce sont des activités en rhumatologie, en dermatologie, dans les actifs cosmétiques. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans ce monde de la cosmétique, on a fait le choix d'être vraiment le spécialiste et ainsi aussi d'épouser des thèses qui sont vraiment une attente des consommatrices et des consommateurs autour justement d'une recherche de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc c'est tout l'enjeu que nous avons, c'est ce qui explique mon petit logo Bicorp ici. Mais
j'allais en parler justement parce que vous dites responsabilité sociétale environnementale. Depuis 2004, vous avez changé beaucoup de choses, notamment votre packaging. Vous achetez aussi votre site pour votre site justement à Épernon, votre électricité, elle est 100% issue du renouvelable. C'est important. C'est vraiment
d'un bout à l'autre de la chaîne.
C'est un point important, c'est une démarche qui existe depuis 2004, donc c'est pas une mode, c'est vraiment un point volontaire pour nous. Ça passe par quoi sur un plan pratique pour les produits? Ça passe par un approvisionnement effectivement tout à fait responsable. 95% en moyenne d'ingrédients d'origine naturelle, des flacons 100% recyclables. On utilise depuis 10 ans des plastiques recyclés. C'est des choses qu'on ne sait pas quand on achète nécessairement le produit. Et tous ces éléments-là amènent énormément de crédibilité. Mais ça n'est pas le tout. Il faut aussi, j'allais dire, avoir une entreprise qui fonctionne comme cela. Parce que derrière une marque, il y a aussi une entreprise. Et d'où le mouvement Bicorp et bien sûr Bicorp qui est aussi Mustela.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de Mustela. C'est l'entreprise qui
Merci
va
beaucoup.
Bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Vous voulez investir et pourquoi pas en achetant un arbre? C'est la solution imaginée par Ecotree pour sauver aussi les forêts et la planète. À tout de suite. Le meilleur de la France bouge, c'est la dernière partie et donc c'est l'heure de la solution. On retrouve Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag. Investir son argent tout en faisant un geste concret pour l'environnement, c'est l'idée de votre solution aujourd'hui, Elisabeth. Ça s'appelle Ecotree, c'est une start-up française qui propose à des entreprises et à des particuliers de devenir, propriétaires d'arbres. Racontez-nous.
Mais oui, on sauve la planète en gagnant de l'argent. Enfin, ça peut être pas mal, c'est la solution d'Ecotree. Vous investissez dans des forêts, Ecotree est propriétaire du terrain. Vous devenez propriétaire des arbres que l'on trouve dans la plantation. Toute la logistique est prévue par Ecotree durant tout le cycle de vie de l'arbre. Les arbres prennent de la valeur et figurez-vous qu'on peut s'attendre à un rendement de 2% par an. Ecotree rachète des forêts abîmées, les remet en état. Et l'entreprise propose donc à chacun de nous d'être propriétaire d'un ou plusieurs arbres sur ces massifs.
Manifestement, vous avez bien résumé. Bonjour, Baudouin Verken.
Bonjour, j'ai quasiment plus rien à dire.
Vous allez voir, on va vous poser plein de questions. Vous êtes le cofondateur d'Ecotree. C'est quoi justement une plateforme pour acheter des arbres? Il y a plein de gens qui doivent se demander, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors c'est vrai qu'à l'heure où il y a plein de plateformes qui voient le jour sur le marché, nous l'idée c'est vraiment de rendre accessible à tout à chacun, au corps social, notamment particuliers, mais entreprises aussi, puisque les entreprises elles ont un rôle très important à jouer, pour permettre qu'elles s'impliquent, qu'elles s'investissent sur un patrimoine commun qui est aujourd'hui la forêt. Et nous, on intervient sur le sujet de la forêt française, qui a un rôle très important à jouer, sur les enjeux climatiques notamment, mais sur les enjeux de biodiversité. Donc nous, on a voulu rendre simple, accessible, vulgariser l'implication de tout à chacun, parce qu'on est tous appelés à agir en faveur de l'environnement et il ne faut pas de solution exclusive, mais bien au contraire une solution qui puisse embarquer tout le monde à la hauteur de ses moyens et de ses objectifs.
Alors justement, vous parlez de moyens, par exemple, j'ai envie d'acheter un arbre, ça coûte combien? Comment je dois m'y prendre?
Eh ben, vous vous rendez sur la plateforme ecotree.fr. Donc tree comme arbre en anglais, et dès 15 euros, vous allez financer la plantation d'un arbre sur un massif en France.
Alors, à partir de 15 euros, c'est possible?
Exactement.
D'accord. Et alors, vous faites quoi, Ecotree, derrière?
Alors, nous, Ecotree, notre première expertise, c'est l'expertise forestière. Et donc, nous, on monte tous ces projets de reprise forestier.
Donc, je peux choisir mon arbre?
Exactement. Vous avez la possibilité, sur le site, de choisir des régions et des départements, de choisir des typologies de défis forestiers qu'Ecotree va gérer, va piloter. Et vous avez, sur ces parcelles en question, la possibilité de choisir des essences en fonction des projets qu'on réalise sur le terrain.
Et alors, comment vous rémunérez l'investisseur? Parce que vous parlez de rendement jusqu'à 2% par an. Comment ça marche?
En fait, la nature est assez bien faite parce que, au bon geste, les bonnes récompenses. Quand vous faites une bonne gestion durable d'un massif, vous contribuez naturellement au volet environnemental de cette action, mais vous permettez aussi des bénéfices qui sont économiques, parce qu'une forêt bien gérée va produire un bois de qualité, et ce bois de qualité notamment va se retrouver dans l'ameublement, dans le bois de charpente, et ça vaut de l'argent. Le travail bien fait est valorisé.
Que dit notre coach Laurent Chouin?
Ça, vous pouvez l'étendre aux agriculteurs, c'est-à-dire dans votre business model, demain, vous pourriez aider les agriculteurs aussi à se développer exactement sur le même modèle?
Alors, dans cette logique un peu d'économie du partage, de mutualisation, c'est sûr qu'il y aurait un sujet sur le monde agricole qui est très voisin du monde forestier.
Bien sûr, bien sûr.
C'est vrai que nous, aujourd'hui, on se concentre sur la forêt française. On sait qu'il y a déjà des initiatives et des start-up qui se penchent sur le monde agricole. Mais c'est sûr que, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à faire.
Je dis ça parce que j'ai un arbre truffier dans le Périgord.
Vous voyez. Ah, vous êtes du Périgord.
Un petit agriculteur. Non, pas du tout, mais je l'ai acheté.
Vous avez besoin d'aide, Laurent.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, c'est ça.
Non, mais c'est sûr que ce mécanisme et ce modèle est vertueux.
On est sur un modèle français?
Oui.
On est sur peut-être demain un modèle plus européen.
Alors justement, donc il y a beaucoup à faire sur le territoire français. On y agit tous les jours. Demain, on est en train de réfléchir à européaniser ce concept, mais dans une vertu très particulière, c'est qu'on veut proposer aux entreprises européennes, en fait, d'investir sur des forêts françaises, de s'inscrire dans une logique de compensation carbone volontaire sur des massifs forestiers français, à l'heure où on décrit, trop malheureusement d'ailleurs, que beaucoup d'entreprises françaises financent des projets un peu partout, mais pas assez en France.
Combien de personnes ont déjà sauté le pas et acheté un arbre aujourd'hui? Combien d'entreprises aussi?
Alors, dans les entreprises partenaires, il y en a plus de 250, et on a plus de 15 000 clients actifs, et une communauté qui nous suit, qui va au-delà des 15 000, puisqu'on a plus de 30 000 personnes qui nous lisent régulièrement, parce qu'on anime aussi un contenu pédagogique sur la forêt à travers un blog qui est très qualitatif et que je vous invite à visiter, parce qu'il il permet d'informer beaucoup sur la forêt et les idées reçues qu'on peut y avoir.
Acheter un arbre, c'est donc la solution imaginée par Écoterie. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Laurent qui était notre coach.
Merci.
Laurent Chauin et autre coach, autre sujet dans le meilleur de la France bouge ce lundi avec Raphaël Duchemin de 13h à 14h sur Europe 1. On va s'intéresser aux entreprises leaders dans le secteur de la plongée. Et oui, on aime faire le tour de France des initiatives positives et novatrices sur Europe 1.